Ils sauvent les grands singes de la forêt indonésienne tout en préservant la nature et en aidant les populations locales. Shani est l'invité d'Europe 1 Soir Week-end. Il nous les expliquera à l'origine du combat de sa vie. On en parle avec lui dans un instant sur Europe 1, évidemment.
18h, 20h,
Arthur Meurioux sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. Arthur Meurioux.
Europe 1 Soir Week-end, ça continue avec notre invité de 19h15. Bonsoir Shani.
Bonsoir.
Vous êtes le fondateur de l'association Kalawait, créée dans le but de protéger les gibbons en Indonésie. Et vous êtes aussi l'auteur d'un livre, Hâte d'être à demain pour continuer à sauver, aux éditions des presses du Midi. Mais avant de parler de votre livre, Shani, est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter l'histoire de votre association? Comment l'idée de sa création vous est venue?
Alors, pour essayer de faire court, moi j'ai rencontré les gibbons quand j'avais 12 ans, quand j'étais en France, dans un zoo, et ils me paraissaient encore plus tristes que les autres animaux en captivité. Et je me suis mis à les observer, à aller tous les mercredis, à aller les observer, et à aller essayer de les comprendre. J'ai compris qu'ils vivaient en Asie du Sud-Est, et c'est devenu un peu une promesse que je leur ai fait de tout faire pour les aider. Et c'est comme ça que j'ai créé l'association Kalawait et que je me suis envolé en Asie, en Indonésie, en 98 pour monter le premier programme de conservation des gibbons. Et ça fait maintenant 25 ans que je suis en Indonésie pour mener ce combat à bien et pour tenir ma promesse.
Il y a une phrase très belle dans le livre. J'essaie d'expliquer à mes enfants que Kalawait est bien plus qu'une association, c'est une philosophie. Quelle philosophie? Celle de l'espoir, de la résilience?
C'est de l'espoir, l'espoir par l'action, parce que moi je ne vois d'espoir que quand il y a de l'action concrète, c'est-à-dire se retrousser les manches, pas simplement des grands blablas et théoriser sur la conservation et la protection de l'environnement, mais être au front, empêcher les tronçonneuses de couper les arbres, empêcher les braconniers de tuer des animaux, et tout ça, même si c'est des victoires à l'échelle locale, à l'échelle d'un animal, à l'échelle de quelques hectares de forêt, ben ça remplit d'une énergie positive qui donne justement la force et l'énergie de continuer. Et c'est ça Kalawait, c'est cette énergie-là que j'essaie au moins de transmettre à mes enfants et qu'on mène avec toute mon équipe ici.
Donc vous préservez des espaces forestiers. Est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer vous expliquer dans votre livre, mais peut-être nous l'expliquer là pour les auditeurs d'Europe 1, la stratégie que vous adoptez? Si j'ai bien compris, vous collectez de l'argent, vous achetez des terres et ensuite vous les protégez, c'est ça?
Exactement, on crée des réserves avec les mêmes outils que ceux qui détruisent la forêt. Si vous voulez, vous avez des propriétaires terriens qui peuvent acheter des centaines d'hectares pour faire une plantation de palmiers à huile et tout défoncer, tout détruire. Eh bien moi, j'ai appris les clés dans l'administration et dans la législation surtout indonésienne pour pouvoir faire la même chose, mais pour protéger. Donc on crée des réserves privées en partenariat avec les populations locales, puisqu'elles ont toujours accès évidemment à leur terrain, à la forêt. Simplement, elles conviennent de ne pas couper d'arbres et de ne pas chasser dans ces zones-là. Donc c'est bien plus qu'un simple travail foncier, c'est un travail foncier pour avoir la légitimité de protéger, mais tout ça en partenariat avec les populations locales.
Et vous en parlez de cette population locale dans le livre, parce que en fait votre activité est très bien reçue par eux, et vous dites aussi quelque chose, préserver la forêt, ça veut pas dire empêcher toute activité humaine dans cette forêt. Vous laissez la population locale faire de l'agriculture et se développer dans ces forêts.
Exactement, les Dayak, c'est le terme générique pour toutes les ethnies de Bornéo, sont des gens très attachés à leur forêt. Et une forêt vivante, c'est aussi avec des gens à l'intérieur, mais qui travaillent dans cette forêt de manière respectueuse. Vous savez, dans les coins les plus reculés de Bornéo, dans les montagnes centrales de Bornéo, au milieu de la jungle, ça m'est arrivé de trouver des EVA sauvages de Bornéo, qu'on appelle ici le panton, qui étaient saignés au milieu de nulle part. On a l'impression qu'il n'y a personne, mais en fait, il y a des marques humaines ancestrales un peu partout dans la forêt. Et donc, encore une fois, une forêt vivante, c'est avec des humains. Mais pas clôturer des zones et interdire tout le monde de rentrer, ça marchera pas sur le long terme.
Mais cette population locale, votre démarche, comment ça se passe? Vous leur expliquez, il y a un travail avant de racheter ces terres, etc. Vous leur expliquez ce que vous voulez en faire, vous expliquez votre projet, comment est-ce que ça se passe avec cette population locale?
Tout ça a pris énormément de temps, surtout pour avoir la confiance des gens en Indonésie. C'est vrai qu'aujourd'hui, mon association on a une certaine visibilité en Indonésie, donc on n'a plus vraiment à se présenter. Et on est vu comme des partenaires des populations locales. C'est-à-dire que vous savez, quand quelqu'un dans un village souhaite changer d'une vie de subsistance, d'une agriculture de subsistance à une vie un petit peu plus confortable, le seul pécule qu'il peut avoir pour investir dans un nouveau mode de vie, je dirais, dirais, c'est de vendre ces terrains. Et mais les gens sont aussi attachés à leur forêt. Donc si on donne le choix de vendre des terrains à une compagnie qui va tout détruire ou de vendre les terrains à Calaouet et ils vont pas perdre l'usufruit des terrains et ils vont garder la forêt, eh bien le choix est vite fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des listes d'attente de personnes qui souhaitent travailler avec nous. C'est simplement les sous qui manquent pour pouvoir aller au rythme que les gens voudraient qu'on ait.
Il y a un passage dans votre livre qui m'a interpellé. Si vous êtes dépressif, alors oui, vous avez une chance d'être un bon écolo. C'est bien pourquoi on est en train de creuser notre propre tombe. Si l'on cesse de regarder vers la lumière, eh bien oui, on mourra. Là, vous visez directement les militants et les élus écologistes, peut-être. Enfin, vous trouvez qu'il manque d'espoir dans leur discours, c'est ça, Chani?
Ben, je pense qu'on a, on a trop, surtout en France et dans les pays occidentaux, des personnes qui, certes, sont extrêmement sincères, mais qui ont un discours extrêmement noir parce que eux-mêmes sont dépressifs, parce que eux-mêmes ne sont pas dans l'action concrète dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que cette action concrète qui vous remplit de bonheur et de satisfaction quand vous avez des victoires à l'échelle locale. Et ça, si on l'a pas, évidemment qu'on n'arrive pas à diffuser autour de nous, la lumière. Pour qu'on vienne nous aider et mener ce combat-là. Moi, si vous voulez, ce qui me fait le plus peur, c'est quand je me suis engagé, je dirais, dans cette vie, j'avais 12 ans. Mon rêve, c'était d'aller sauver la forêt et les gibbons. J'ai aujourd'hui peur que le petit Chani de 12 ans, qui souhaite aussi faire la même chose, eh bien, il s'engage pas parce qu'on lui a volé ses rêves et ses rêves ont été volés par les mêmes qui veulent soi-disant sauver la planète. Mais la manière de le faire n'est pas la bonne. Il faut aller vers le concret et arrêter de théoriser. Aujourd'hui, l'écologie est représentée par énormément de personnes qui parlent beaucoup, théorisent beaucoup, mais par peu d'acteurs de terrain. On est trop peu sur le terrain. Donc on n'a jamais eu autant besoin de ce gamin qui va s'engager. On n'en a jamais eu autant besoin sur le terrain parce que ce dont on a besoin, c'est d'action concrète.
Et si je comprends bien, Chani, on parle beaucoup de phénomènes d'éco-anxiété, notamment ici en France, des jeunes qui ont peur pour leur avenir. En fait, vous leur conseillez à ces jeunes de venir sur le terrain, de s'engager dans des combats comme le vôtre. Et là, peut-être que l'espoir pourra renaître chez eux, c'est ça ?
C'est exactement ça, c'est de voir aussi que chercher même, il y a aussi plein de bonnes nouvelles concernant l'environnement dont on ne parle jamais. Ça ne cache absolument pas toutes les problématiques et les challenges face à nous. Évidemment, je ne nie absolument rien et je suis le premier à savoir la gravité de la situation aujourd'hui. Mais il y a aussi dans tout ça des bonnes nouvelles. Et si on s'en prive, si ces bonnes nouvelles ne sont pas assez relayées, eh bien justement, on n'a plus d'espoir. Et sans espoir, on n'arrivera pas à remporter la victoire face à tous les challenges qu'on a face à nous. Donc moi, ces jeunes là, je leur dis, regardez, il y a encore plein de choses à sauver. Il ne faut pas regarder en arrière, il faut regarder en avant. Et on n'a jamais eu autant besoin d'action.
Je vais lire un dernier extrait de votre livre. Sur le terrain, ceux qui font face aux tronçonneuses, aux braconniers, qui font de leur vie un combat, sont des entités plus petites, parfois isolées. Je m'identifie comme l'une d'entre elles. C'est peut-être l'un des discours de ces grandes ONG qui nous a poussés à nous engager. La différence majeure entre ces fondations et nous, c'est l'engagement. Nous ne concevons pas de protéger des animaux de la forêt pendant 5 ans pour ensuite entrer au bercail. Nous nous battons pour une durée indéterminée. Ces grandes ONG comme WWF, c'est quoi ? Alors, c'est une grande campagne de publicité ?
Oui, c'est avant tout des grandes campagnes marketing, ça c'est certain. Vous avez au mieux, dans beaucoup de cas, alors je vais pas tout mettre dans le même panier, mais c'est quand même la grande majorité de ces grandes ONG, au mieux vous avez des gens qui font de la recherche, on a besoin des datas, c'est extrêmement important, mais c'est pas ça qui en soi sauvera la forêt ou des écosystèmes, c'est ce qu'on va faire de ces data. Donc quand les initiatives s'arrêtent à ça, mais ça ne suffit pas. Et aujourd'hui, nous on se sent extrêmement seul parce que justement les projets dits de conservation des grandes ONG sur le terrain, c'est maximum 5 ans. Alors que encore une fois, ça n'a aucun sens. Le long terme, c'est pas 5 ans. Le long terme, c'est commencer à protéger et voilà, sans savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Et ça, c'est une des clés qui nous différencie, c'est que moi, j'ai la responsabilité des zones protégées que j'ai créées sur une durée indéterminée à tous les gens qui m'ont fait confiance pour sauver cette forêt. Je vais pas dire au bout de 5 ans, bon, ben, je le file aux autorités indonésiennes et puis je m'en vais. Et si l'année suivante il y a un incendie, j'ai pas de compte à rendre.
Et je le rappelle, Chani, vous êtes en direct pour cet entretien de l'Indonésie. Pour les auditeurs d'Europe 1 qui veulent peut-être soutenir votre association, je rappelle une adresse, calaweit.org, calaweit.org. Et je rappelle aussi votre livre, Hâte d'être à demain pour continuer à sauver. C'est chez les Presses du Midi. Merci Chani d'avoir été l'invité d'Europe 1 Soir Weekend.
Merci beaucoup à vous. Merci.
Allez, dans un instant, panorama.